Voilà, bonjour. Pas bon, enfin, je dis pas bonjour de nouveau aux gens de l'antenne clinique qui étaient déjà là et pour ceux qui sont venus. Donc, c'est Jacques Bory qui est psychanalyste à Lyon, qui enseigne à la section clinique de l'antenne clinique de Genève, qui est coordinateur de la section clinique de Lyon, qui a aussi des fonctions importante par rapport à une institution à Clermont-Ferrand qui s'appelle Nonet et qui fait partie du réseau des institutions lacaniennes, RI3. Donc il est psychanalyste à Lyon et beaucoup d'entre vous le connaissent très bien, donc c'est toujours un peu particulier et formel de présenter Jacques Bory. Comme on dit des fois rituellement, mais de temps en temps, c'est vraiment bizarre de faire une description. Alors, par contre, ce qu'il y a de marquant, c'est donc que Jacques Bory a écrit un livre qui s'appelle Le psychotique et la psychanalyse.
Le psychanalyste.
Et le psychanalyste. Le psychanalyste. Ouais. Aux éditions que je devrais savoir le titre par cœur, j'ai moi-même fait la préface, donc ça serait la moindre des choses. Et qui, aux éditions Michel, que dirige Philippe Lacadet, qui est aussi un des enseignants de l'antenne clinique de Genève. Alors, Jacques Bory va nous présenter un exposé autour à partir de son livre et ensuite une discussion sur cette question d'actualité du psychotique et le psychanalyste, à la fois dans la clinique, puisque c'est très central dans l'orientation lacanienne que de ne pas reculer devant la psychose, et également du côté des débats actuels qui resituent le tranchant des découvertes freudiennes dans une contestation et une résistance qu'on découvre comme toujours prête à réapparaître. Voilà, Jacques.
Merci. Donc tu as fait la préface et tu fais l'introduction aussi. De mon livre, en effet, que j'ai intitulé « Le psychotique et le psychanalyste » et non pas « Et la psychanalyse ». C'est important.
Tout est là.
Pas tout, mais quelque chose. Bon, je parle sans lire mon texte, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais bien sûr préparé, mais j'ai oublié mes papiers. En venant, les papiers que j'avais préparés, un peu précipités, donc je me suis trompé de papier et j'ai pas pris le bon. Mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de parler. Et c'est essayer de vous donner, non pas un condensé de ce livre, parce que ce livre est essentiellement centré sur une galerie de cas. J'ai appelé la galerie des inventeurs, et donc il faut le lire pour pouvoir en parler. On ne peut pas exposer ça oralement, parce que tout est dans les détails du cas, l'enseignement qu'on peut en tirer, et que donc c'est pas des cas que j'expose principalement dans ce livre que je peux vous parler, mais des quelques principes d'orientation qui l'ont déterminé. Ce que j'apprécierais, c'est que si certains l'ont lu, ce que j'espère, puissent m'interroger dessus, apporter leur avis ou leur critique ou leurs questions, j'y répondrai volontiers. Alors, je disais donc, suite au lapsus de François Ansermet, qu'il s'agissait bien du psychanalyste et non pas de la psychanalyse. Pourquoi ? On pourrait répondre comme fait Lacan lorsqu'on lui demande « qu'est-ce que la psychanalyse ?» La psychanalyse, répond-il, est la cure qu'on attend d'un psychanalyste. Il n'y a pas de réponse plus simple que ça. Mais c'est capital d'entendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la psychanalyse ne se définit que par le psychanalyste. Et donc, pas du tout comme on l'a fait très souvent, par une question technique, un dispositif. Savoir si on est debout, assis, allongé, à quatre pattes ou je sais pas quoi, ou si il y a deux séances, une ou cinq, ça c'est pas des questions qui ont une pertinence, mais qui sont secondaires par rapport à la question fondamentale qui dépend donc du psychanalyste, c'est-à-dire du désir du psychanalyste, qui, comme Jacques Alain Miller le notait, est un désir portatif. C'est-à-dire que le psychanalyste n'est pas défini non plus par le fait d'être dans un cabinet. ni par le fait d'être dans une institution. On peut transporter, si je puis m'exprimer ainsi, le désir du psychanalyste avec soi. C'est ce qu'on attend du psychanalyste, qu'il le soit dans la société aussi, dans le débat public. François Ansermet faisait référence au débat politique actuel autour de l'autisme. Eh bien, là aussi, notre responsabilité est de faire entendre ce que la psychanalyse a apporté, on peut le dire, à la civilisation. Donc, le psychanalyste est ce qui définit la psychanalyse, et non pas le contraire. C'est donc mettre la responsabilité, dans le rapport au psychotique spécialement, du côté du psychanalyste, et non pas du côté de ce qui a été souvent le cas dans l'histoire de la psychanalyse, du côté d'une question technique en quelque sorte, héritée de Freud. Qu'est-ce qu'on a hérité de Freud ? On a hérité de Freud la psychanalyse comme pratique avec les névrosés. Ça, c'est l'invention de Freud et elle tient toujours tout à fait solidement. Mais comme vous le savez, Freud avait une réticence par rapport au psychotique. Lui-même ne se disait pas intéressé. Mais il n'a jamais non plus fermé la porte à la question. Il a dit peut-être qu'un jour on trouvera comment faire, mes élèves ou d'autres. Bien que lui-même ne se soit jamais vraiment engagé dans ce registre-là, donc laissant la question en suspens à ses élèves, dont certains se sont engagés dans la brèche pas ouverte, si on peut dire, et ont essayé de traiter la question, et très souvent par le biais d'une adaptation de la technique. C'est-à-dire, en gros, avec les psychotiques, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça... Il ne faut pas les recevoir sur un divan, il faut les mettre en face à face. Tout ça a sa valeur, mais ça ne définit rien de la psychanalyse. Hein? Donc, dès lors qu'on pose le problème comme un problème technique, on considère le psychotique comme en déficit par rapport au névrosé. Le névrosé, lui, est adapté, il est conforme, il rentre dans le dispositif analytique en quelque sorte de façon standard. Quant au psychotique, eh ben, il n'est pas comme tout le monde, en effet, ça c'est tout à fait juste. Et il a une sorte de réticence à s'adapter à la chose. Vous voyez que si on pose le problème comme ça, on ne pourra jamais avancer. Donc, avec Lacan, on fait porter la question sur le psychanalyste, mais... Dans un premier temps, Lacan a d'abord mis l'accent, puisque lui, contrairement à Freud, est venu à la psychanalyse non pas par les névrosés, mais par les fous des asiles. Puisque c'est ce qu'il a d'abord rencontré en travaillant à l'infirmerie de la préfecture de police, et ensuite à Sainte-Anne, où on rencontrait les fous de l'époque. Et c'est là que Lacan forgera son intérêt pour la psychanalyse à partir du discours des malades de l'hôpital et non pas à partir des discours des névrosés sur le divan. Donc c'est la différence de point de départ avec Freud qui va se systématiser par la suite dans la place même que Lacan accordera à la psychose comme en quelque sorte non pas un modèle déficitaire par rapport à la névrose, mais comme en quelque sorte un état fondamental du sujet. Alors, pour en venir à ce point-là, notez que le point de départ de Lacan sur la psychose, dans son enseignement le plus classique, celui du séminaire 3 ou de la question préliminaire dans les écrits, met l'accent sur la question de la structure définie par le mécanisme qui lui est propre, c'est-à-dire la forclusion. Donc, il manque un signifiant, ce signifiant, un nom du père, et c'est ce qui serait causel, cause psychique dans le registre de la psychose. Vous voyez que cette conception, que Lacan ne donnera jamais d'ailleurs, a cependant un défaut, c'est que c'est une conception déficitaire. Il manque quelque chose. Donc, vous voyez comment ça marche mentalement la question. S'il manque quelque chose, on va se dire comment est-ce qu'on peut opérer dans la pratique en comblant le manque. Donc en ayant l'idée qu'on va suppléer à ce nom du père qui manque en quelque sorte tentant une sorte de greffe de père sur le sujet par diverses interventions de type symbolique. C'est pour ça que Lacan fait remarquer, dès sa question préliminaire, que c'est en effet un préliminaire, cette définition de la forclusion. C'est-à-dire que ça définit la psychose dans la structure du langage, il manque un élément pour faire tenir l'ensemble, mais que ça ne nous dit pas comment opérer. C'est préliminaire à tout traitement possible. Autrement dit, ça ne nous dit rien du traitement. Ça nous dit simplement qu'il vaut mieux avoir ces repères symboliques pour pouvoir différencier névrose et psychose, car en effet, ce n'est pas la même chose, et il y a tout intérêt à ne pas nous confondre. Mais ça ne nous donne aucun élément pour le traitement. Ça n'est qu'un préliminaire. Et pourquoi est-ce que ça ne donne aucun élément pour le traitement? Parce que c'est encore une conception purement déficitaire. Et donc, pour que le traitement soit pensable, il faut qu'on fasse un pas de plus, c'est ce que fera Lacan d'ailleurs, vers une conception non déficitaire de la psychose. C'est-à-dire une conception qui sera centrée non pas sur le fait qu'il manque quelque chose, mais plutôt sur le fait que le psychotique rajoute quelque chose. Et que dans la psychose, il y a un pouce à l'invention. Un pouce à l'invention qu'on peut en effet aussi déduire de ce défaut de structure. Si vous manquez quelque chose, ça vous pousse à être suppléé par votre activité, votre travail. Mais on peut aussi le déduire plus fondamentalement en le situant comme la modalité propre à l'être humain de venir au monde en défaut de savoir comment faire avec sa vie, avec son corps, avec son être sexué. Donc supposer que la forclusion n'est pas réservée aux psychotiques, mais que ça concerne d'une certaine façon un peu tout le monde, et d'avoir une conception plus généralisée de la forclusion. À ce moment-là, le modèle n'est plus la névrose, mais plutôt la psychose, comme état natif du sujet, qui, dans le cas de la névrose, consiste en une interprétation de ce défaut par une construction symbolique. C'est pour ça que le névrosé fait tout un roman de sa vie. Contrairement au psychotique, quand vous écoutez des psychotiques, vous remarquerez que le côté roman est très rare. C'est-à-dire le roman sur leur histoire, hein, je veux dire. Le roman familial, tout ça. Le roman familial, c'est dénévrosé, comme dit Freud. On pourrait même dire que c'est ça, la névrose. C'est de faire de sa vie un roman familial. Et le psychotique, lui, il arrive très rarement à faire ça. Il a beaucoup de difficultés à construire cette élucubration propre au névrosé. Il va en construire une autre. Ça s'appelle le délire, dans certains cas. C'est pour ça que Freud dit que le problème, comme le disait aussi, par mauvaise considération des choses, certains, c'est pas que le psychotique refuse la réalité, contrairement au névrosé. Il la refuse tous les deux. C'est comme dit Freud dans son article sur la réalité de la névrosé et la psychose, c'est que le problème, c'est que chacun ne veut pas savoir de quoi il s'agit, mais que le problème est la différence entre le névrosé qui met à la place son fantasme et le psychotique qui met à la place son délire. Le délire et le fantasme, c'est en effet pas tout à fait la même chose. Alors, c'est donc avec le dernier enseignement de Lacan, ce que nous appelons avec Jacques Alamiller le dernier enseignement de Lacan, que nous arrivons à aborder davantage la question de la psychose. Pourquoi ? Parce que justement, on met l'accent non pas sur ce qui manque, mais sur ce qui supplémente, ce qui rajoute. Et on prend le sujet psychotique non pas comme un sujet déficitaire, mais comme un sujet au travail, comme un sujet poussé à l'invention. Poussé à l'invention du fait même de ce défaut d'assise transmis par le nom du père. Poussé à l'invention, qui peut prendre la forme d'un délire quand l'invention est une invention signifiante, mais qui prend aussi bien la forme de toute autre forme, c'est-à-dire une création artistique, une pratique particulière du corps, une invention imaginaire, des tas de choses, ce qui suppose donc que la fonction du nom du père peut être tenue par beaucoup d'autres choses qu'un père concret. C'est une fonction. Le propre d'une fonction, c'est qu'elle peut être saturée par des variables différentes. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est uniquement comment il convient de considérer l'enseignement même de Lacan comme lui aussi passant d'un état où nous sommes devant une conception de la cure tout à fait limitée, greffe du nom du père, à une considération où nous pouvons envisager le traitement d'une façon beaucoup plus large, comme une façon de faire à partir du pouce à la création. D'ailleurs, notez que Lacan, dans son premier texte, du séminaire 3, la question préliminaire, en 1956, à cette époque, parle de la pratique du thérapeute comme une pratique du secrétaire de l'aliéné. Le secrétaire de l'aliéné, c'est une formule qui a été souvent entendue et reprise, et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Le secrétaire de l'aliéné, ça implique donc le fait qu'on prenne au sérieux ce que dit le sujet, c'est-à-dire une considération positive, par exemple, du délire. Rappelez-vous ce que disait déjà Freud, le délire est une tentative de guérison, donc non pas comme un déficit, là encore, mais une tentative de créer quelque chose. Le délire est une tentative de guérison. Remarquez bien que c'est une tentative, c'est que ça ne marche pas non plus. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'idéaliser le délire, mais aussi d'abord de cerner quelle est la valeur de création pour tenter de traiter un problème insoluble. Donc la première référence de Lacan au traitement, c'est par le secrétaire de l'aliéné, celui qui enregistre les paroles, c'est-à-dire qui prend au sérieux ce que dit le sujet. Ce qui ne se faisait pas à l'époque, puisque la tradition, c'était quand même de dire aux psychotiques, là vous vous trompez, il faut vous apprendre que la réalité n'est pas ça. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec les thérapies cognitives. Les thérapies cognitives sont fondées sur l'idée qu'il y a une erreur de jugement et qu'il faut la rectifier, ce qui s'appelle la remédiation cognitive, par exemple. Pour les schizophrènes, il y a un centre à Lyon qui s'occupe de ça, et où on dit aux schizophrènes qu'ils se trompent, leur pensée bizarre, et que la réalité c'est pas ça, et qu'on va leur expliquer par quel biais il faut reprendre contact avec la réalité. Donc, le secrétaire de l'aliéné, lui, fonctionne à l'envers, il considère que c'est sur ce que dit le sujet qu'on va s'appuyer, et non pas sur nous, notre considération de la réalité, qui est en fait notre fantasme, hein, c'est bien. Donc je vous dis ça pour vous donner quelques éléments de ce mouvement même chez Lacan, de ce passage de la considération de la structure, définition d'un mécanisme, conclusion, mais qui ne donne pas d'issue quant au traitement, qui laisse au seuil préliminaire à la possibilité de penser le traitement à partir du moment où on présente le sujet, non pas comme un sujet purement déficitaire, mais comme un sujet poussé à la création. Alors j'ai dit principalement que que le propos de mon livre, en tout cas, mettait l'accent sur le psychanalyste. Donc, quelques mots sur qu'est-ce qu'on peut attendre du psychanalyste pour être à la hauteur. Le problème, il est du côté du psychanalyste, encore une fois. C'est sa responsabilité, sa formation, son désir qui est en jeu. Quand je dis psychanalyste, ça peut aussi être une question posée à tous ceux qui pratiquent avec les psychotiques, même s'ils ne pratiquent pas comme psychanalyste. C'est bien dans la section clinique ce que nous faisons. Nous essayons de voir en quoi la psychanalyse apporte quelque chose à des personnes qui ne sont pas forcément en position de travailler comme psychanalyste, mais qui veulent éclairer leur pratique par la psychanalyse. Quelques points pour vous orienter là-dedans. Premièrement, la question de supporter la perplexité. C'est un point auquel je tiens beaucoup et qui consiste à se dire ceci. Lorsque nous recevons un sujet psychotique, il y a forcément un effet d'étrangeté. Un effet d'étrangeté qui est produit par le fait que le sujet a un rapport au langage souvent un peu privé. Contrairement au névrosé qui insiste plutôt sur le monde commun, se comprendre, être de la paroisse, pour le psychotique c'est plutôt hors paroisse. Donc ça procure à celui qui les reçoit un sentiment d'étrangeté, énigme, d'énigme. On a vu un exemple tout à l'heure avec cette jeune fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Aucun mot pour le dire. Et qu'il est capital pour nous, pour le psychanalyste qui est aux prises avec cette question, de faire de ce moment-là un moment fécond. Autrement dit, il ne s'agit pas de venir faire bouchon de l'énigme par son propre savoir. Il s'agit donc de supporter le moment de perplexité qui consiste à se demander déjà de quoi il parle, parce que ce n'est pas évident. Et de le supporter pour supposer que de cette énigme-là même, de supporter cette énigme-là, sera productif pour le sujet dans son élaboration future. Autrement dit, le psychanalyste est amené à supporter la perplexité. Lacan situe pourtant la perplexité du côté du psychotique d'abord, puisqu'il dit, par exemple, dans le cas du président Schreber, c'est le moment où il a des phénomènes bizarres qui lui arrivent, il entend des voix, il a des visions, il se demande si le soleil lui parle. Perplexité, qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut tout un moment d'élaboration pour revenir au délire construit qui est qu'il serait beau d'être une femme en train de subir l'accouplement et de consentir à ça. Ça, c'est le délire comme réponse à la perplexité. Et bien, il me semble qu'il faut que nous prenions aussi, nous, la perplexité de notre côté, c'est-à-dire que nous acceptions de ne pas comprendre et de ne pas conclure, c'est-à-dire de ne pas fournir le savoir de l'énigme devant lequel nous sommes, et de prendre ça comme un moment productif et non pas comme un obstacle. Ça suppose d'être formé à quoi? D'être formé à ceci, que dans la langue, il y a du hors-sens, c'est-à-dire du réel. C'est ça que le psychotique vient nous présenter en quelque sorte. Un rapport à la langue qui n'est pas centré sur la signification, contrairement à celui du névrosé, qui veut donner du sens à tout, mais qui bien souvent exhibe le rapport du sujet à la langue comme réel. C'est pourquoi j'ai donné dans l'introduction de mon livre l'exemple de ce sujet qui était venu me trouver en me disant qu'il lui fallait un analyste car son père bouffait son cerveau. Son père bouffait son cerveau, c'était très réel, c'est que les mots de son père l'attaquaient physiquement dans sa tête. Et donc nous voyons que là nous avons à répondre à ce point-là de qu'est-ce que c'est que la langue lorsqu'elle devient réelle, lorsque sa dimension principale n'est pas le sens, mais la jouissance, ici la jouissance de l'autre, qui possède le sujet. Vous voyez derrière le paradoxe de la psychanalyse, hein. C'est-à-dire, quelqu'un vient nous dire qu'il souffre du langage et on lui propose le langage comme thérapeutique. C'est quand même bizarre. C'est bizarre que si on n'a pas cette idée, et c'est aussi la formation analytique qui permet ça, que la langue c'est bien autre chose que la communication. Si on pense que la langue, ça sert à communiquer, on n'y comprend rien. Puisqu'on vient de nous parler, au contraire, de quelque chose qui ne communique pas, mais qui jouit. C'est-à-dire qui vous commande, qui vous fait faire. Ce n'est pas pour discuter, ce n'est pas le dialogue, hein. C'est le commandement. Auquel a affaire le psychotique, sous la forme des voix, par exemple, ou d'autres phénomènes, mais le phénomène des voix, bien sûr, étant le plus connu classiquement. Donc, de ce côté-là, il s'agit de ne pas faire l'autre du sujet et d'accepter ce moment de perplexité dans la rencontre. Ça suppose d'ailleurs, c'est un point que j'ai cité dans mon livre, que nous ayons à situer l'amour même comme étant de notre côté. Une sorte d'inversion de la logique habituelle. Quand on dit que le névrosé, dans le transfert, aime, puisque Freud définit le transfert comme un amour véritable, qui est très juste. Donc, qu'est-ce qu'il aime? Lacan définit le transfert à partir de l'amour, comme le rapport à la supposition de savoir, etc. Donc, ça suppose que le transfert se supporte de l'amour d'un savoir qui serait situé dans l'autre, qu'il faudra aller chercher. Eh bien, avec le psychotique, on ne peut pas opérer de cette façon. Parce que le psychotique, d'abord, il ne suppose pas. Il a un rapport au savoir qui est un rapport de certitude et non pas de supposition. Les voix lui parlent, il n'y a pas à discuter, ce n'est pas une supposition. Donc on ne peut pas être du côté de la supposition. L'amour, donc, dans le transfert, il vaut mieux qu'il soit de notre côté. Qu'est-ce que ça veut dire, amour? C'est pas qu'on aime le patient, bien sûr. Pas une question de subjectivité personnelle ou d'affect individuel, encore moins d'empathie, comme on disait tout à l'heure. C'est une question d'aimer la bizarrerie. Car pour accepter de supporter toutes ces choses-là, il faut quand même avoir un goût un peu spécial. C'est aussi l'analyse qui forme à ça. Le goût de l'altérité. C'est pas une donnée, hein. L'humain tend à plutôt préférer le même à l'autre. Donc pour aimer l'altérité, l'hétérogénéité radicale, il faut se former à ça. C'est à quoi devrait servir une analyse. Mais aussi de la pratique que nous avons, par exemple, dans les sections cliniques, d'étudier les cas cliniques, donc de s'intéresser à ça, d'aimer ça, d'aimer le détail. C'est une question de goût pour en avoir. Et quand on en a, eh bien on en trouve. C'est-à-dire que c'est parce qu'on aime ça qu'on trouve, en écoutant les sujets, le petit détail qui va prendre cette valeur, qui va l'aider à vivre mieux, peut-être s'appuyer sur sa propre parole. De notre côté, j'ai mis également dans mon livre tout un chapitre sur le style du psychanalyste. Pas le style du patient. On pourrait parler du style, hein, du patient, des écrits paranoïaques, des délires inspirés, tout ça. Là, c'est pas là-dessus que j'ai voulu mettre l'accent. J'ai voulu mettre l'accent sur le style du psychanalyste, c'est-à-dire la modalité particulière de la rencontre qu'il peut soutenir. Pour définir ça, j'ai développé trois points. Je vous les cite simplement en disant deux mots. Premièrement, un style pragmatique. Pragmatique, ça veut dire que c'est un style sans a priori, qui se définit donc de ta pragma, comme disaient les philosophes grecs, ce qu'il y a à faire. Il se définit par l'attention à ce qu'il y a à faire et non pas au sens. Ce qu'il y a à faire et non pas ce que ça veut dire. La pragmatique, c'est en plus quelque chose qui est ouvert à toutes les solutions. C'est-à-dire justement, ça n'a pas d'idée a priori sur « ça c'est mieux que ça ». Même l'idée lacanienne de la domination du symbolique, c'est une idée qui nous amène dans des impasses. C'est pour ça qu'il l'a critiqué lui-même. Il faut avoir une idée pragmatique, c'est-à-dire que ce qui convient, c'est l'usage que le sujet en fait. Donc ça ne se définit que par l'effet que ça produit. Est-ce que ça va être utile pour tel sujet de produire telle œuvre? Est-ce que ça va être utile pour tel sujet de s'adresser ainsi à son chef? Est-ce que ça va être utile pour tel sujet d'avoir des relations avec telle femme? Nous n'en avons aucune idée. C'est la pragmatique de la chose qui va permettre que quelque chose se noue ou pas, en fonction du fait que ça permet un traitement de la jouissance qui, si elle n'est pas traitée, est destructrice. Deuxièmement, j'ai défini le style, comme je le propose, par sa dimension démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça prête à la confusion. Hein, alors. Donc je précise un peu la chose. Parce que quand on dit démocratie, on entend tout de suite, ben, tout le monde est égal, voilà, tout le monde pareil. La démocratie, ça se définit du fait qu'on a coupé la tête au roi, et donc il reste que des uns tout seuls, qui s'identifient à partir de ça. Il n'y a plus d'exception, tout le monde se vaut, un égal un. C'est très utile, s'il n'y avait pas la démocratie, il n'y aurait pas la psychanalyse. Mais en même temps, quand je parle de style démocratique avec le psychotique, ce n'est pas du tout de ça que je parle, parce que justement, dans le travail analytique, on n'est pas dans des égaux identifiés. Écrivez égaux comme vous voulez. On n'est surtout pas des égaux identifiés. Donc il ne s'agit pas de chercher à être pareil que le patient. Démocratique, ça ne veut pas du tout dire ça. Démocratique, ça porte sur le fait que le signifiant ne vient pas de l'autre. Dans le régime impérial, ou le régime du discours du maître en politique, ça consiste à quoi le discours du maître en politique ? Ça consiste à produire des signifiants auxquels des gens vont s'identifier. Vous êtes de gauche, de droite, pour le communiste, je sais pas quoi, faites ce que vous voulez. C'est une façon d'inviter à faire masse à partir d'un signifiant qui vient coller les gens entre eux. Ça c'est utile, hein, mais dans la psychanalyse, c'est pas comme ça qu'on opère. Donc, on opère d'une façon démocratique, c'est-à-dire non pas à partir d'un signifiant proposé par l'autre, mais à partir de ce qui s'élabore dans la conversation elle-même. C'est pour ça que la pratique analytique avec les psychiatriques n'est pas du tout du genre « je vous écoute et je fais homme de temps en temps », mais c'est une pratique extrêmement active, qui implique de s'activer. Bon, vous avez peut-être vu le film tout à l'heure, si je m'étais contenté d'écouter, on n'aurait pas entendu grand-chose. Qu'il faut donc pouvoir s'activer, c'est-à-dire manifester un certain désir, non pas d'avoir une idée sur ce qu'il convient pour le patient, mais de lui permettre de le dire là où il est enfermé dans quelque chose qui l'empêche de le dire justement. Donc la pratique démocratique, c'est celle qui déduit les signifiants que le sujet, dont le sujet peut se soutenir, à partir de la conversation. Vous voyez la différence avec ce que faisait la jeune fille tout à l'heure. Elle disait, est-ce que je suis, comme elle a dit, spasmophile ou bien je ne sais plus quoi, déprimé ou encore autre chose. Ça, c'est des signifiants de l'autre, elle essaye de s'accrocher à ce qui passe. Ça peut être utile. Donc il n'y a pas lieu de s'opposer à ça. Mais ça ne répondra certainement pas de sa particularité. Donc, notre travail, c'est plutôt de produire des signifiants démocratiquement, c'est-à-dire élaborés par la conversation elle-même. Au sens de l'agora antique, grecque. À quoi j'ai ajouté un style ironique. Quel rapport ? Ironique, c'est pas se moquer du patient, hein, c'est plutôt le contraire. Ironique, ça se réfère à ce que Lacan dit du schizophrène lorsqu'il note que le schizophrène a un rapport ironique au langage. Et comment est-ce que Lacan explique ça ? En disant que l'ironie, c'est la marque portée sur l'inconsistance de l'autre. Ça consiste à dire, en quelque sorte, vous croyez que c'est ça, hein, comme Socrate faisait, parce qu'il y a sa façon. Lorsqu'on vous dit ce qui est votre bien, eh bien, il y a tout intérêt à être ironique. Et donc nous, en tant que psychanalystes avec les psychotiques, nous sommes du côté du psychotique en tant qu'il est ironique sur l'autre. Sur l'autre qui croit qu'il sait ce qu'il lui faut. J'en donne quelques exemples dans mon livre. Et si vous le lisez, vous verrez que c'est tout à fait essentiel de bien saisir ça. J'ai donné un exemple qui était très frappant, parce que c'est l'ironie de la jeune femme psychotique par rapport à moi qu'elle avait fait dans une présentation de malade, où elle m'expliquait qu'elle avait une fille qui s'appelait Emma. Et que je lui dis, Emma, pourquoi Emma ? Et je lui dis bêtement, vous avez peut-être pensé à Emma Bovary. Vous êtes tous en train de penser à ça ici. Hein ? Donc, enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup. Et ça, c'est vraiment bête. C'est bête, enfin, c'est lui, quoi. Donc, c'est pas un obstacle. Mais ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est bête ? C'est parce que ça met justement le discours commun à la place de l'énigme. Alors qu'elle me dit, mais qu'est-ce que vous me racontez avec votre Emma Bovary ? Moi, je n'ai pas pensé une seconde à ça. Elle avait appelé sa fille Emma pour une raison littérale, c'est-à-dire que le E venait après le J, qui était le nom de son grand-père, et avant le F, qui était, enfin, je ne sais pas quoi. C'était une façon de mettre l'enfant dans une lignée uniquement par la lettre. Alors, elle m'a expliqué ça, et moi, j'avais l'air un peu bête avec mon Emma Bovary. Mais c'est pas un obstacle, puisqu'il suffit de se laisser guider, elle vous explique, vous n'y comprenez rien. Et donc il faut accepter de ne pas comprendre, encore une fois, c'est ce qui permet au sujet d'avancer. Donc la bêtise fait partie, Lacan disait bien qu'il était dédié lui-même à certains moments et qu'on ne pouvait pas échapper à ça. Donc il ne s'agit pas d'y échapper, ça serait une vision idéaliste. Il s'agit de s'en servir. Vous voyez la différence ? Donc on se trompe tout le temps quand on est psychanalyste. C'est-à-dire qu'on dit des interprétations à côté, heureusement, parce que si vous les disiez vraiment dedans, ça serait dangereux. Donc il vaut mieux être un petit peu à côté quand même. Mais tout le problème, c'est de savoir rectifier en fonction des associations, etc. Donc j'ai insisté sur cette dimension de ces trois termes que j'ai utilisés, pragmatique, démocratique et ironique, pour nous situer du côté du sujet, comme vous le voyez. Du côté du sujet dans son effort de trouver une nomination de sa jouissance, une nomination compatible avec le lien social. Alors je voudrais insister sur un dernier point avant de discuter avec vous. Un point sur lequel je veux mettre l'accent parce que il y a une certaine confusion, je trouve. Genre, hier j'étais à Nice où j'en parlais à la section clinique de Nice, enfin avant-hier, et où ils travaillaient sur l'invention psychotique. Ce qui est très juste, hein. Nous aussi à Lyon on avait fait une session sur ce thème. On met l'accent sur l'invention dans la psychose. C'est très juste. C'est le cas de Joyce, par exemple, qui a illustré ça, commence l'invention de son écriture, lui donne un écho qui lui permet de se tenir à peu près dans le monde. Mais il faut faire attention à une chose, c'est l'usage que nous faisons de ça. En effet, cette pente à la création, qui est propre à la psychose, et qui a donné des génies dans la culture, dans la science, dans les mathématiques, dans l'art, dans tout ce que vous voulez, ne doit pas pour autant nous faire idéaliser la position du sujet. Parce qu'au fond, si c'était si idéal, on se demande pourquoi il viendrait tant de voir, et on se demande pourquoi tant de sujets sont terminés en se suicidant. On étudiait encore récemment avec mon ami Jacques Aubert le cas de Virginia Woolf, dont il vient de publier la traduction à la Pléiade, et qui raconte quand même comment Virginia Woolf a fini sa vie en se jetant dans la rivière, alors qu'elle avait publié toute sa vie des romans, à une seule condition, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que dès qu'elle avait fini un roman, que l'éditeur l'avait publié, elle tombait en dépression soudaine, et il fallait qu'elle recommence un autre. Donc vous voyez que l'invention ici a un côté absolument ravageant. C'est-à-dire que l'invention n'est pas un choix, mais une obligation. Vous voyez le côté terrible que ça peut avoir d'être obligé d'inventer sa vie à chaque instant. Et j'ai entendu ça plus d'une fois pour ma part de la part de sujets psychotiques, m'expliquant combien c'était terrible. C'est pourquoi nous devons avoir l'idée qu'il n'y a pas que l'invention. On ne peut pas supposer une vie fondée que sur l'invention, car fondée sur un trou, puisque pour inventer, il faut se confronter à un vide. Donc il faut que nous arrivions à produire un effet de routinisation, et pas seulement d'invention. C'est un point auquel je tiens beaucoup, parce que quand on parle d'invention, tout le monde trouve ça formidable, et on idéalise vite la question, comme à une époque ça s'est fait avec le schizophrène, c'est ce qu'a fait Deleuze par exemple, qui fait l'éloge du schizophrène, l'homme déterritorialisé, etc. Sans voir que beaucoup de schizophrènes témoignent quand même de quelque chose de plutôt terrible, et pas seulement d'un idéal, d'une vie ravagée par l'angoisse et d'autres choses. Donc nous n'avons pas idéalisé la chose, nous avons trouvé le lien qu'il y a entre la création et ce qui s'inscrit comme stable, que j'appelle la routinisation, qui n'est pas sans rapport avec le signifiant démocratique, puisque qu'est-ce qui est démocratique ? C'est le fait que vous inscrivez quelque chose qui n'était pas déjà là. Par la discussion, vous dites « ça, ça me convient ». C'est un peu comme les galets dans la rivière. Comme dit Francis Ponge, qui décrit le galet roulé par la rivière et qui prend une forme petit à petit par l'usage même, par le fait qu'il est roulé par le courant. Eh bien nous faisons ça aussi à notre façon. C'est-à-dire que nous polissons les galets pour que le sujet puisse s'en servir. Et j'appelle ça donc le rapport entre invention et routine qui permet au sujet de trouver une stabilité Lacan le définira aussi d'une autre façon, par le nouage borroméen, etc. Mais j'essaye de ne pas répéter ce qu'on répète tout le temps. Donc de vous donner aussi une façon de situer les choses avec ce binaire qui suppose qu'on arrive à trouver là encore une conjonction de deux choses un peu hétérogènes, le souci de l'invention et le souci de la stabilité, de la stabilisation par une certaine routinisation du signifiant. Je reçois par exemple une patiente depuis très longtemps qui va beaucoup mieux mais qui a une vie terrible parce que tous les matins elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas se lever sans tomber, même physiquement, comme si elle devait reprendre pied dans le monde chaque jour, ayant perdu tous ses repères dans la nuit. Ce qu'elle appelle renaître chaque jour sur des sables mouvants. Alors on essaye de trouver une façon de faire avec ce moment du réveil qui lui permette de faire l'économie de ça, mais c'est pour le moment, ce qu'on a trouvé de mieux, c'est de venir voir le psychanalyste, mais on essaye de trouver autre chose, parce que c'est quand même aussi une contrainte dont on pourrait estimer qu'on pourrait s'en passer. Voilà donc quelques exemples aussi de ce souci-là qu'il me semble important que j'ai essayé de transmettre dans notre pratique, d'avoir à la fois le souci de soutenir le penchant créatif du sujet et non pas le penchant déficitaire, et que cependant il s'agit aussi de situer combien il est nécessaire que la création ne soit pas un devoir permanent, si, mais une possibilité, ce qui n'est pas la même chose. Et que pour cela, il faut donc avoir un ancrage dans autre chose que de la création, mais dans un signifiant ou un objet dont on a l'usage de façon constante. Bon, je pourrais encore vous dire des tas de choses, mais je préfère m'arrêter là pour l'instant et qu'on ait quelques minutes de discussion. Alors.
Bon, question. Merci pour cette présentation. Je vais laisser les personnes réagir. Oui.
Je trouve génial, vous finissiez aujourd'hui avec ce mot constante. Mmh. On a parlé tout à l'heure de la pulsion, qui est une poussée constante. Et vous voudriez que le psychotique puisse avoir l'usage d'un objet d'une façon constante. Votre livre est génial. C'est, en plus, c'est des petits galets, c'est pas seulement des perles, mais c'est des petits galets qui permettent qu'on entende à plusieurs reprises quelque chose d'essentiel, mais comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas besoin à chaque fois de jeter un galet pour en prendre un autre, pour le repolir encore, parce que ce travail du psychotique, il est épuisant.
Surtout pour eux, hein. Oui, c'est bien la difficulté. Alors ça, je ne peux pas vous répondre sur comment on peut faire de façon générale, mais je peux vous répondre que c'est le souci qu'on doit avoir. Notre souci porte sur fournir une satisfaction. Hein? C'est-à-dire, le sujet psychotique, comme tout le monde, mais de façon plus radicale, il est aux prises avec une jouissance débordante. C'est jamais la bonne, c'est toujours en trop. Eh bien, il s'agit de trouver une satisfaction. Il y a quelque chose qui est plus limité, mais qui permet de s'asseoir dessus, si je puis me permettre. Satisfaction, ça veut dire ça se fait assez. Donc opposer la juste satisfaction à la jouissance en trop. Si on a ce guide-là, on doit pouvoir trouver quelques repères dans cette manière de faire. Avoir ce souci-là. Évidemment, après, ça ne répond pas du cas par cas. Le cas par cas, justement, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objet de principes universalisables. On peut le voir dans les cas où le souci que j'ai eu dans les cas dont je rencontre, c'est de rencontrer du cas non pas comme une observation, mais comme un lien analytique. C'est-à-dire dans lequel on voit aussi ce que fait l'analyste. C'est ça qui est intéressant. Sinon, c'est que de l'observation. L'observation, c'est quand même pas ça l'analyse. L'observation, c'est pour être cohérent avec ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que c'est le psychanalyste qui est responsable. Donc il doit rendre compte de son acte, y compris de ses erreurs. J'en ai donné quelques-unes d'ailleurs. Oui.
Vous avez parlé de en fait, de l'utilisation d'aide pragmatique, soutien de l'invention, qui semble être des mesures avec lesquelles le sujet pourrait, si les articles pour lui, il va vivre avec une meilleure aise. Donc, ça sous-entend qu'il n'y a pas un but de traitement dans le sens, justement, on ne conçoit pas ça comme déficitaire pour traiter le déficit. Mais dans votre expérience, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des psychoses traitées, ou peut-être chez les enfants, ou traitées dans la langue courante
Ça dépend ce qu'on appelle traiter, en effet. Traitement, bien sûr qu'il y en a. Je crois que mon livre en témoigne de certains, mais traiter, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le psychotique devient névrosé. Hein. Enfin, il le reste. Donc je crois que de ce point de vue-là, il n'y a aucune. D'ailleurs, il n'y a pas d'illusion à avoir. Psychotique, c'est ou névrosé, c'est ni mieux ni moins bien. Je veux dire que. Il y a des tas de psychotiques qui se débrouillent très bien dans la vie. La patiente dont je viens de vous parler, qui ne tient pas debout, elle a une fonction sociale très importante, je ne peux pas vous dire laquelle. Je suppose qu'aucun de ses collègues n'a l'idée de ce qu'elle vit. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. On peut avoir des problèmes du genre « je ne tiens pas debout quand je me réveille » et avoir des fonctions sociales très reconnues. Donc, elle est toujours psychotique dans les deux cas. Hein. Mais il y a des tas de manières de faire avec ça. Donc, si on parle de traitement, c'est un traitement de la jouissance. C'est-à-dire pour éviter qu'elle soit du côté de la destruction, de la pulsion de mort. Donc, trouver une jouissance, c'est-à-dire une satisfaction, compatible avec le lien social, c'est ça notre orientation. Que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, la question se pose pareillement. Enfin, évidemment, il y a des contextes particuliers, mais... L'orientation est la même. C'est le sujet.
Bon, moi j'aurais juste le contre-pied de la question précédente en me disant, au fond, en t'écoutant aujourd'hui, mais j'avais lu le manuscrit juste avant sa révolution. En fait, il y a aussi beaucoup de moyens d'aggraver les psychotiques.
Bien sûr.
C'est plutôt ça que je retiens, c'est-à-dire la responsabilité du psychanalyste, puisqu'on est dans ce paradoxe où on traite un sujet affligé par le langage, sous l'intimation de l'autre, dans une circularité infinie, insupportable, avec la parole, comme tu dis, dans ce paradoxe central de ton livre, c'est le langage, c'est justement ce qui le torture, et c'est avec ça qu'on va le traiter. Bon, donc il y a beaucoup de moyens de l'aggraver. Hein. D'où la question du style, de supporter la perplexité, d'un certain maniement de l'interprétation, et puis en même temps ce rôle actif dont tu parles beaucoup, et tu prends des exemples, et aujourd'hui en plus... On en a discuté, c'est actif, c'est-à-dire qu'il y a une circularité qui se passe de l'autre, et puis il faut quand même entrer. Mais en entrant, on risque de faire pas mal de problèmes. Quoi. Donc c'est quand même une grande question d'être aussi affirmatif que ça d'une complexité de l'affaire. Hein.
Absolument. Et j'ai bien, il me semble que j'en parle, hein, du risque même de la chose. C'est pour ça que nous n'avons pas du tout une idéalisation de la parole. Pour certains sujets, parler peut les faire déconner beaucoup plus, pour dire les choses un peu trivialement. Donc la psychanalyse, ça forme aussi à ça, à savoir quelle dose de parole convient. Un peu, pas beaucoup, quelques mots suffiront. Et quelles questions il ne faut pas poser? Et sur quoi il ne faut surtout pas mettre l'accent? Donc nous avons un usage mesuré. C'est ça la formation analytique.
Voilà, d'où l'importance de la reconnaissance de la psychose dans le travail clinique.
Bien sûr.
Si on ne reconnaît pas...
Non pas pour se défiler, mais pour en faire un usage...
Voilà.
mesurer.
Les vieux aliénistes disaient, si on ne reconnaît pas un psychotique, on en fait un antisocial ou un criminel.
Ouais,
C'était une vieille parole d'aliénisme, mais qui était pas fausse, puisqu'aujourd'hui, les formes du fou, c'est plus la personne qui délire, c'est celui qui fait un crime.
Et qui passe à l'acte.
Qui passe à l'acte dans un crime public.
Donc c'est surtout pas un pouce à traiter les psychotiques à tout va. Là, il y a besoin d'une mesure de la chose, au cas par cas. C'est pour ça qu'il y a pas de... il peut y avoir des contre-indications au travail analytique, mais pas une contre-indication à rencontrer un psychanalyste. C'est pourquoi j'ai distingué la psychanalyse et le psychanalyste. C'est qu'il vaut mieux pour certains sujets qu'ils ne fassent surtout pas de psychanalyse. Ça va les faire... Lacan le dit d'ailleurs. De je ne sais plus quel sujet, là, on dit, oulala, si j'avais pris celui-là en analyse, il serait vraiment, il serait certainement pas amélioré. Alors que, pourquoi ? Par contre, il n'y a pas de contre-indication à rencontrer un psychanalyste, parce que le psychanalyste, on peut supposer que sa formation, c'est une formation à ça. C'est-à-dire à savoir que la parole est quelque chose dont il faut faire un usage modéré, adapté à chacun. Et que pour certains, il vaudra mieux leur dire, comme vous êtes, c'est très bien, surtout ne changez rien. Et ne pas y toucher, parce que ça risquerait de les faire se décomposer encore plus. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer, encore une fois, le psychanalyste de la psychanalyse, qui serait vue comme une pratique universelle pour tous.
Ouais. Non, c'est pour ça que c'est important que ce titre soit...
J'ai pour ça que j'ai bien... Et non pas comment la psychanalyse peut traiter les psychotiques, c'est pas ça. J'essaye de mettre l'accent là-dessus et de faire entendre ça.
Oui, allez-y.
Allez-y.
La question, en fait, c'était, vous dites qu'il faut arriver à avoir l'invention et la stabilisation pour le psychotique, de pouvoir lier les deux. Mais comment on fait dans une société qui prône les TCC, où en fait il y a une stigmatisation des personnes psychotiques, et c'est vrai que ce qu'on va leur demander comme effort, ça sera deux fois plus pour pouvoir être intégré qu'au névrosé normal. Donc c'est quand même, je dirais pas une lutte sans espoir, mais une lutte très compliquée. Donc voilà, je ramène le problème de société qui est en fait crucial. En fait.
Bien sûr. Mais bon, c'est vrai ce que vous dites, mais une fois qu'on l'a dit... on n'a plus qu'à faire ce qu'on a à faire, hein. C'est-à-dire que c'est pas de le dénoncer qui fera avancer le truc non plus. La posture de dénoncer tout ça, c'est une vérité impuissante. Si vous voulez ce que... C'est-à-dire que c'est vrai ce que vous dites. Mais si on met ça uniquement en avant, ben on est dans l'impuissance totale. Alors je crois que la bonne réponse à ça, c'est de pratiquer ce qu'on peut. Évidemment, et de témoigner dans le public de notre effet. À Lyon, par exemple, on a une structure qui s'appelle le CPCT, c'est un centre de consultation publique, où les psychanalystes reçoivent des gens paumés de la société gratuitement. Eh bien, ça a un effet politique important. Les politiques se demandent, mais alors, qu'est-ce que c'est, comment vous faites? Enfin, ça pose la question un peu autrement. Tous les paumés de la société... C'est-à-dire trois quarts de psychotiques, hein, quand même, et qui sont errants à divers titres et qui ne rentrent dans aucun des dispositifs habituels du genre on va vous donner un emploi, mais il faut vous former. Alors que déjà, leur dire qu'il faut se former, ça leur fait un truc impossible. Et donc, notre intervention porte sur des sujets comme ça d'une autre façon. Donc, nous avons à la fois à faire entendre ce que nous faisons au cas par cas, comme avec un livre comme ça, il y en a d'autres, hein. Pour montrer la pertinence de l'approche analytique, et puis à faire entendre que, par exemple, par rapport au TCC, plus on veut diriger les psychotiques pour les faire entrer plus ou moins de force dans la norme, plus on va faire des trucs violents. Parce que c'est le second espace pour que la libido passe ailleurs, quoi. C'est-à-dire que la normativité des sujets, ça crée des dangers sociaux. Il faudra qu'on arrive à faire entendre ça, alors l'époque n'est pas favorable, hein. Vous avez remarqué, mais on est quand même là pour ça, parce qu'on est les seuls à dire ça. Mais je pense que Lacan pariait là-dessus, il disait que tout ça, ça ne pourra pas marcher sans symptômes, c'est-à-dire sans que ça rate, quoi. toute cette volonté de notre époque de normaliser, de réduire les fous à des gens dangereux et des trucs comme ça. Donc notre espoir, et notre, pas notre espoir, parce que l'espoir ça a une connotation un peu idéaliste, comme disait Lacan, les cimetières sont pleins de gens qui espéraient. C'est-à-dire qu'il faut, quand on espère, déjà c'est trop idéaliste un peu. Il faut pratiquer quoi, ce qui n'est pas pareil. C'est-à-dire pas idéalistement, mais pragmatiquement, traiter ce qu'on rencontre et faire entendre ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans l'institution que je préside, par exemple, qui est une institution de psychotiques et d'autistes, agréée par les autorités, pour traiter ces sujets par la psychanalyse. Bon, ça durera combien de temps? Ben, ça fait déjà 30 ans, hein, ben, bon. On ne peut pas vous garantir l'avenir, hein.
Oui. J'avais une question, à Lacan et son admiration pour Claire Rimbaud.
Oui.
C'était son seul maître en psychiatrie. C'est une question pas au livre. Là,
oui.
Et qui m'intéresserait à connaître ta réponse pour toi.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? C'est quoi la question? C'est
pourquoi Lacan
admirait Claire Rimbaud? Oui.
Semble-t-il était un personnage.
Un personnage tout à fait fou. Très agressif avec les patients, il disait qu'il faut les manipuler. Voilà, il inventait des trucs pour manipuler les patients, pour leur faire dire des trucs dans les présentations de malades. C'est qu'il faisait des présentations de malades, pas exactement comme nous.
Voilà,
les
présentations de malades sont
enregistrées. Oui, oui, tout à fait. Claire Rimbaud était quand même un type qui s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête devant son miroir. Ça nous donne quand même une idée du sujet.
Mais n'empêche,
habillé en femme,
oui.
Avec des plis, passionné qu'il était par les plis des robes. C'était son objet fétiche. Donc vous voyez, ce type quand même un peu était quand même le maître de la psychiatrie au début du XXe siècle. Et Lacan a fait donc sa formation en particulier avec Claire Rimbaud, parce que Claire Rimbaud c'est quelqu'un qui était assez génial, c'est-à-dire qui s'intéressait à ce que disaient les malades. Et il peut vous dire qu'à l'époque déjà, ça commençait à se perdre. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire des comptes rendus cliniques extrêmement détaillés de chaque mot du patient. Si vous pouvez les lire, ça a été publié. C'est génial. Et donc, en particulier, d'isoler le fameux mécanisme qu'il a appelé l'automatisme mental, qui était en quelque sorte la forme selon laquelle les délires se déployaient à partir d'un automatisme. C'est là que Lacan a pêché l'idée que s'il y avait de l'automatisme, c'est que ça parlait tout seul et qu'il devait y avoir un principe organisateur dans ce langage, et ce qu'il a amené sur la voie de comparer les délires des psychotiques avec la structure du langage, à partir de cet automatisme idéique. Vous comprenez? Et donc Claire Rimbaud, Lacan le reconnaissait comme son seul maître en psychiatrie, en particulier pour avoir apporté ça à la psychiatrie et à la psychanalyse. Bon, ceci dit, c'était aussi un sujet tout à fait délirant, hein. Mais c'était un grand psychiatre, on peut être les deux, vous voyez. Aujourd'hui, ça passerait pas, hein. Alors qu'à l'époque, c'était le maître. Et imaginez aujourd'hui ça. Oui, mais ça serait tout de suite dénoncé et montré comme... La folie prend une autre forme aujourd'hui. C'est une folie normative. C'est le bureaucrate qui veut tout calculer, tout chiffrer, tout mettre en papier, en numéro.
On a passé, oui, la folie de la norme.
La folie de la norme. C'est plus la folie du fou, qu'on voyait tout de suite qu'il était un peu ailleurs, quoi. C'est au contraire la folie de tous dans la même case. C'est quand même ça la vraie folie. La folie de vouloir normer le monde.
Oui.
Oui, j'avais une question par rapport à ce terme, notion d'optimisation que vous avez évoqué.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et puis je me demandais quelle articulation vous faisiez par rapport à la conclusion de répétition.
La routinisation met l'accent sur le fait que le signifiant pour le psychotique ne donne pas une stabilité par l'identification, et que donc il faut le produire par la conversation elle-même. Mais pour qu'on puisse s'en servir, il faut qu'il obtienne un usage par le fait qu'on s'entend dessus, qu'on se reconnaisse, enfin donc par la conversation elle-même, qui implique une certaine routine qui n'est pas une compulsion de répétition. La routine, elle vient du fait simplement que pour se reconnaître, pour faire lien social, il faut un minimum de routine. Dans n'importe quel groupe. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la paroisse. Mais nous en avons aussi, hein, ici. Faut bien avoir quelques signifiants communs pour s'entendre un petit peu. Et si vous n'avez pas ça, eh ben vous ne pouvez pas tenir dans le lien social. Comme disait Lacan, est fou celui qui ne peut pas s'identifier. Il faut un peu d'identification. Ah, évidemment, ça peut être des degrés divers. Mais si vous n'en avez pas du tout, eh ben vous allez avoir de la peine à être autre chose qu'un déchet dans la rue. Donc il faut favoriser une certaine routine du signifiant pour ne pas être obligé toujours d'inventer le dernier truc génial possible.
La question que j'avais, elle était un peu dans la suite de ce qui s'est dit avant, mais peut-être aussi de maintenant, c'était justement par rapport à cette démocratisation dont vous parliez, de la conversation, ce mode-là avec le psychotique. Je me demandais dans quelle mesure justement le risque, c'était qu'entre trouver une juste satisfaction et puis un débordement d'une jouissance, puis d'autant plus d'une jouissance qui viendrait de l'autre, c'était justement comment pêcher ces signifiants-là sans que justement ça soit vécu comme venant de façon persécutoire de l'autre, qui incarnerait l'analyste.
Bien sûr.
Ce que j'entends, c'est qu'une méthode, même si ce n'est pas ce que vous proposez, ce serait justement la routinisation.
La routinisation s'appuie sur l'invention. Hein, c'est pour ça que j'ai peut-être pas assez montré le lien.
Non, mais justement.
Ça vient pas de l'autre.
Voilà, mais que cette invention soit pas justement issue de l'autre, et puis que ce soit connoté d'une jouissance de l'autre qui déborderait à son tour.
C'est bien pour ça que je vous dis que la routinisation, c'est pas imposer un signifiant comme un sujet. C'est suivre dans son invention le signifiant qui va lui servir de point d'appui et dont on pourra essayer avec lui de lui donner un effet de routine et non pas d'invention permanente. C'est le contraire de s'appuyer sur le signifiant de l'autre qui pourrait supposer la jouissance de l'autre. J'en donne un exemple là aussi d'une manœuvre que j'ai faite qui n'était pas juste. Lorsque j'ai proposé à un patient, inquiet de mon absence pendant les vacances, je lui ai proposé de m'écrire. Sachant qu'il aimait écrire. 2 mois plus tard, je l'ai retrouvé paralysé devant sa feuille, il n'avait pas pu écrire un mot. Parce que ma proposition, il l'avait entendue comme un commandement. Et donc, c'était pourtant formulé avec quelques précautions, mais qui n'ont pas suffi. Ça, c'est typique, si vous voulez. C'est-à-dire que là où on croit amener un signifiant de soi qui va aider le sujet, lui, il l'entend comme un « il faut ». Et donc, il est resté devant sa feuille, ne pouvant écrire un seul mot, mais ayant dans la tête le pouvait m'écrire, s'est transformé en vous devez m'écrire. C'est ça l'opération psychotique aussi, qui transforme la demande en exigence, en commandement. Pour ça qu'il faut vraiment se méfier de toute proposition de type vous pourriez peut-être que.
Lille.
Est-ce qu'on peut parler de délire mélancolique?
Délire mélancolique?
Oui.
Je n'ai pas parlé de ça, moi.
Ah? Non, je sais. Ah. C'est une question que tu parlais de délire psychotique.
Voilà.
Je pense surtout à une femme que je rencontre souvent dans une institution et qui est très mélancolique. J'ai l'impression qu'elle délire, mais c'est pas les délires.
Qu'est-ce que c'est son délire alors?
Bon, ça commence à partir de sa position du péché, de la faute d'être né, mais aussi après dans toutes les interprétations qu'elle peut faire de ce qui se passe dans le quotidien.
Alors à ce moment-là, si elle construit un délire à partir de sa position de déchet, c'est déjà un traitement de la mélancolie, ça.
Oui.
Puisque la mélancolie, c'est justement de réduire le sujet à son être de déchet. Je ne suis qu'une merde, je ne vaux rien, etc. Alors, il n'y a pas besoin de délirer. Hein. C'est... Le délire, c'est justement une construction. Il faut essayer de donner un volume autre à son être de déchet, qui va contre la tendance du mélancolique, qui est de se jeter par la fenêtre. c'est-à-dire de réaliser son être à travers le passage. Alors qu'au contraire, s'il se met à délirer, c'est déjà une construction qu'il faut favoriser, parce que ça va contre l'être de déchet. Subjective.
L'être de déchet, c'est pas un délire, alors.
Non, c'est une position, c'est la vérité. Regarde ce que dit Freud dans son article de Deuil et Mélancolie. Il commence par dire comment ça se fait qu'on refuse de la vérité du mélancolique qui dit qu'il n'est qu'il ne vaut rien. C'est ça la vérité humaine. On vaut pas grand chose. Donc il faut beaucoup de névrose pour se construire une idée idéale de nous-mêmes. Donc Freud dit la vérité c'est la position du mélancolique, ce que dit Lacan en disant aussi qu'il ne faut jamais favoriser l'authenticité totale. Si on veut être authentique totalement, on n'a plus qu'à se jeter par la fenêtre, c'est-à-dire dire qu'on est quand même fait pour on est venu dans la vie pour la mort, quoi. Donc faut être l'authenticité, c'est un pouce au suicide quand elle est radicale, hein. C'est authentique jusqu'au bout, d'accord, rien pour se jeter par la fenêtre. Donc un peu de semblant est utile. Donc si un mélancolique se met à délirer, c'est-à-dire à faire une construction, on peut estimer que c'est déjà un traitement de la mélancolie. C'est pour ça que pas mal de mélancoliques ont aussi des délires paranoïaques. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que leur construction sur la mauvaiseté de l'autre permet de traiter leur inconsistance à eux. Bon.
Bon. Une question ? Merci.
Merci.